Et le journal vous est présenté par Margot Delpierre. Bonjour Margot.
Bonjour Chloé, bonjour à tous. Emmanuel Macron espère un profond changement des dirigeants libanais. Le président français s'est rendu hier à Beyrouth après l'explosion meurtrière sur le port. Reportage à suivre de notre envoyé spécial. Quand s'arrête l'amitié? Quand commence l'ingérence? L'opposition française lui reproche de s'immiscer dans la politique libanaise et les réactions sont nombreuses.
Que risque-t-on à sortir sans masque dans les endroits où celui-ci est obligatoire? Le masque s'impose de plus en plus dans les lieux publics ouverts. Nous ferons le point sur les amendes encourues.
Il a fallu beaucoup d'examens en microscope et des outils de haute technologie pour arriver à ce diagnostic. Un premier cas de cancer a été découvert chez un dinosaure par des chercheurs canadiens. Il vient seulement de se rendre à Beyrouth qu'il annonce déjà son retour le 1er septembre. Emmanuel Macron était hier en visite dans la capitale libanaise, deux jours après l'explosion sur le port qui a provoqué la mort d'au moins 149 personnes. Le président français a dépassé les lignes habituelles d'un déplacement de chef de l'État en donnant des pistes pour l'avenir du Liban qui doit s'atteler à un profond changement selon lui. La population est amère et en colère contre le gouvernement accusé bien avant l'explosion d'incompétence et de corruption. À Beyrouth, Nathanaël Charbonnier.
Pour sauver le Liban et permettre à l'argent de revenir, Emmanuel Macron préconise tout simplement un remède de cheval. Lutte contre la corruption, réforme bancaire, réforme du système politique. Le président français a présenté sa feuille de route pour aboutir à un nouveau Liban, Emmanuel Macron.
La question, c'est comment on rebâtit une unité? Comment on sort d'une privatisation des intérêts ou d'une soumission à des puissances extérieures pour retrouver une vraie souveraineté libanaise qui passe par une armée libanaise? Ça fait partie de cette refondation. Mais ce pacte, entendons-nous bien, c'est un pacte des formations politiques existantes, nouvelles et à venir, avec le peuple libanais.
Et si le message a dû faire grincer les dents de certains hommes politiques libanais, côté société civile, en revanche, il a été très bien reçu. Sybille Risk de l'ONG Kaluna Irada.
Écoutez, c'est clairement la visite d'un ami qui a compris la difficulté dans laquelle nous nous trouvons. Cela dit, les enjeux sont énormes. Il est venu dire à la classe politique libanaise, nous ne croyons plus à vos promesses creuses.
Et conséquence, le chef de l'État sera à nouveau au Liban le 1er septembre prochain pour vérifier sur le terrain qu'il n'a pas parlé dans le vide.
Emmanuel Macron était donc le premier chef d'État étranger à se rendre sur place après la catastrophe du port. Les images du président français acclamées par la foule ont fait le tour du monde, ce qui n'a pas plu aux élus d'opposition qui regardaient tout cela depuis la France, certains l'accusant d'ingérence, Sophie Delpont.
Le Liban n'est pas un protectorat français. C'est par ces mots que Jean-Luc Mélenchon dégaine le premier sur Twitter, alors qu'Emmanuel Macron s'exprime devant la presse dès son arrivée à Beyrouth. Quand le président français déclare que des réformes sont indispensables sur l'énergie, les marchés publics et la lutte contre la corruption, et que si ces réformes n'étaient pas faites, le Liban continuerait de s'enfoncer, Julien Bayou, secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, réagit par ces mots. Fin du protectorat français du Liban, 1941. Indépendance, 1944, la solidarité avec le Liban doit être inconditionnelle. Toujours sur Twitter, le vice-président du Rassemblement National, Jordan Bardella, fustige, je cite, « le one-man show arrogant et moralisateur auquel s'est livré Emmanuel Macron à Beyrouth ». Des critiques irrecevables, selon Raphaël Glucksmann. Aurait-on préféré qu'il n'y aille pas et que la France soit absente après une telle catastrophe, interroge l'eurodéputé Place Publique. Et une fois sur place, heureusement qu'il demande des réformes à un gouvernement dont l'incurie et la corruption sont légendaires. C'est ce que demandent les citoyens libanais. Fin de citation. Emmanuel Macron a promis de revenir à Beyrouth, faire un point d'étape le 1er septembre prochain, se plaçant ainsi comme un pilier incontournable dans la gestion internationale de la crise au Liban.
Les États-Unis appellent à la libération de prisonniers talibans en Afghanistan. Des centaines sont détenus dans le pays et accusés parfois de crimes graves. La libération de ces prisonniers est impopulaire, mais il le faut pour avancer le processus de paix, estime le secrétaire d'État américain Mike Pompeo. Un conseil d'anciens est prévu aujourd'hui en Afghanistan et pourrait trancher. Alassane Ouattara estime que la constitution de son pays l'autorise à briguer un troisième mandat. Le président de la Côte d'Ivoire se représente donc. Il a annoncé hier soir sa candidature. L'élection présidentielle aura lieu fin octobre. Ses opposants redoutent une crise post-électorale comme en 2010-2011. Nous y reviendrons dans la revue de presse internationale d'Ilan Malka après le journal de 7h30. L'Inde vient de franchir la barre des 2 millions de cas déclarés de coronavirus sur son territoire. Plus de 40 000 personnes en sont mortes dans le pays. Aux États-Unis, 2 000 morts ont été enregistrées ces dernières 24 heures.
France Culture 7h05, Margot Delpierre. Emmanuel Macron a annoncé hier soir un nouveau conseil de défense sur la Covid-19.
Il se tiendra la semaine prochaine alors que de plus en plus de villes rendent obligatoire le port du masque dans les lieux publics ouverts. À Paris, un arrêté préfectoral devrait bientôt être pris. À Nice, Toulouse et Lille, l'obligation est déjà en vigueur dans les zones les plus fréquentées. Alors que risque-t-on si on sort sans son masque? Les explications de Corinne Audouin.
Le centre-ville de Lille, le bord de mer à Nice, les quais de la Garonne à Toulouse, dans tous ces lieux, le port du masque a été décidé par un arrêté préfectoral. La sanction est la même que pour le non-respect du confinement, 135 euros d'amende forfaitaire, voire 1500 euros en cas de réitération dans les 15 jours. Au ministère de l'Intérieur, on se veut rassurant, pas question de multiplier les verbalisations, du moins au début, les premiers contrôles seront pédagogiques pour faire comprendre à chacun la nécessité d'avoir toujours un masque sur soi. Pendant le confinement, plus d'un million d'amendes avaient été dressées pour 20 millions de contrôles. Pour les villes où l'obligation de porter le masque dans certaines rues a été décidée par le maire, comme à Biarritz, au Mont-Saint-Michel ou à La Rochelle, l'addition est moins salée. En cas de violation, l'amende dressée par la police municipale ne peut pas dépasser 38 euros. Mais attention, car la situation est évolutive. Ainsi, à Nice, la préfecture a publié un arrêté 3 jours après celui du maire, triplant ainsi l'amende encourue.
Corinne Audouin. Le preneur d'otages était connu pour ses antécédents judiciaires et psychiatriques. L'homme qui a retenu 7 employés d'une banque du Havre hier s'est rendu dans la soirée. Aucun coup de feu n'a été tiré, personne n'est blessé. C'était une voix singulière et forte, se souvient le Collège international de philosophie. Le philosophe Bernard Stiegler est mort hier, il avait 68 ans. Nous y reviendrons dans les matins d'été de France Culture avant 7h30 et dès maintenant sur franceculture.fr avec 5 épisodes d'A Voix Nue consacrés à la vie et à la philosophie de Bernard Stiegler. Autre disparition hier, celle de Pierre Viaud, mort à 95 ans. Il avait été président du Festival de Cannes pendant plus de 15 ans. Il a apporté à cet événement noblesse, élégance morale et sens de l'État, estime son successeur, l'ancien délégué général du festival, Gilles Jacob. Les dinosaures aussi souffraient du cancer. On doit cette découverte à des chercheurs canadiens dont l'étude a été publiée ce mois-ci dans la revue The Lancet Oncology. Un dinosaure de 76 millions d'années était atteint d'un cancer. Il s'agit précisément d'un centrosaure découvert à la fin des années 80 dans la région d'Alberta. C'est grâce à un os que ce cancer a pu être identifié, Maxime Fayol.
Oui, un os de jambe plus particulièrement. À la découverte de l'animal, les chercheurs avaient bien repéré une grosseur de la taille d'une pomme sur cet os, mais ils avaient pensé à une fracture mal guérie. Il s'agissait en fait d'un cancer, assez classique chez les animaux, explique la professeure Frédérique Ponce. Elle est spécialiste de cancérologie comparée à l'école vétérinaire de Lyon.
C'est la tumeur osseuse la plus fréquente chez le chien comme chez l'homme. C'est l'ostéosarcome. C'est une tumeur qui se développe principalement sur les os longs. Alors il y a certains facteurs qui ont été identifiés comme étant responsables dans certains cas du développement d'ostéosarcome. Par exemple, des infections de l'os, des ostéomyélites chroniques. On peut faire un lien entre certains facteurs physiques et le développement d'un cancer.
Et retrouver ce type de cancer il y a plus de 75 millions d'années n'a rien d'étonnant selon Frédéric Ponce.
C'est une maladie qui a toujours existé. Partout où il y a des cellules, il peut y avoir des erreurs dans les divisions cellulaires. C'est la maladie génétique par excellence. Et les animaux développent des maladies cancéreuses tout à fait comparables à celles de l'homme.
Alors si aujourd'hui les cancers ont aussi des causes environnementales, cela ne semble pas être le cas pour ce dinosaure, qui ne serait d'ailleurs même pas mort de cette tumeur selon les chercheurs canadiens, car des dizaines d'animaux ont été retrouvés au même endroit, probablement emportés par une inondation.
Maxime Fayol. 45 départements français sont en vigilance orange canicule du sud-ouest et Hauts-de-France. Le pic de chaleur doit durer plusieurs jours. Les températures vont monter jusqu'à 37 degrés à Paris, parfois 40 à 42 degrés localement. Il fera particulièrement chaud des pays de la Loire au Poitou-Charentes, en Aquitaine et dans une grande partie de l'Occitanie, Chloé.
Merci Margot Delpierre, il est 7h10.